Chapitre 2. Mes préparatifs furent vite faits. J'eus la chance que la jeune comtesse roumaine, qui s'était fort éprise de moi, voulut bien m'aider de ses conseils, et ma foi, je le dis, non sans honte, de sa bourse aussi. D'ailleurs, j'eus toutes les chances. Ma mission s'annonçait bien. Par une exceptionnelle dérogation aux coutumes bureaucratiques, 8 jours après cette conversation décisive dans les salons de Madame G., je touchais sans nul anicroche, sans nul retard, les susdits crédits. Ils étaient libéralement calculés, et comme je n'osais pas espérer qu'ils le fussent, car je connaissais de la chiennerie du gouvernement en ces matières, et les pauvres petits budgets sommaires dont on gratifie si piteusement les savants en mission, les vrais. Ces libéralités insolites, je les devais sans doute à cette circonstance que, n'étant point du tout un savant, j'avais plus que tout autre besoin de plus grandes ressources pour en jouer le rôle. On avait prévu l'entretien de 2 secrétaires et de 2 domestiques, l'achat fort coûteux d'instruments d'anatomie, de microscopes, d'appareils de photographie, de canaux démontables, de cloches à plongeurs, jusqu'à des bocaux de verre pour collections scientifiques, des fusils de chasse et des cages destinées à ramener vivants les animaux capturés. Vraiment, le gouvernement faisait luxueusement les choses et je ne pouvais que l'en louer. Il va sans dire que je n'achetais aucun de ces impedimenta et que je décidais de n'emmener personne, comptant sur ma seule ingéniosité, pour me débrouiller au milieu de ces forêts inconnues de la science et de l'Inde. Je profitais de mes loisirs pour m'instruire sur ces lands, ces mœurs, ces paysages, et me faire une idée de la vie que je mènerais là-bas, sous ces terribles tropiques. Même en éliminant ce que les récits des voyageurs comportent d'exagération, de vantardise et de mensonge, ce que je lus m'enchanta particulièrement, ce détail rapporté par un grave savant allemand, qu'il existe dans la banlieue de Colombo, parmi de féeriques jardins, au bord de la mer, une merveilleuse villa, un bungalow, comme ils disent, dans lequel un riche et fantaisiste anglais entretient une sorte de harem où sont représentés en de parfums exemplaires féminins toutes les races de l'Inde, depuis les noirs, tamouls, jusqu'aux serpentines bayadères de Lahore et aux bacchantes doméniaques de Benares. Je me promis bien de trouver un moyen d'introduction auprès de ce polygame amateur et borner là mes études d'embryologie comparée. Le ministre à qui j'allais faire mes adieux et confier mes projets approuva toutes ces dispositions et loua fort gaiement ma vertu d'économie. En me quittant, il me dit avec une éloquence émue, tandis que moi-même, sous l'ondé de ses paroles, j'éprouvais un attendrissement, un pur, rafraîchissant et sublime attendrissement d'honnête homme. « Pars, mon ami, et reviens-nous plus fort, reviens-nous un homme nouveau et un glorieux savant. Ton exil, que tu seras employé, je n'en doute pas, de grandes choses, retrempera tes énergies pour les luttes futures. Il leur trempera aux sources mêmes de la vie, dans le berceau de l'humanité, que... si à ton tour tu retrouvais, ce que je ne puis croire, si tu retrouvais, dis-je, les mauvais souvenirs persistants, les difficultés, les hostilités, un obstacle, enfin, à tes justes ambitions... Dis-toi bien que tu possèdes sur le personnel gouvernemental assez de petits papiers pour en triompher haut la main. Allez, sur somme corda. Compte sur moi d'ailleurs, pendant que tu seras là-bas, courageux pionnier du progrès, soldat de la science, pendant que tu sonderas les golfs et que tu interrogeras les mystérieux atolls pour la France, pour notre chère France. Je ne t'oublierai pas, crois-le bien. Habilement, progressivement, dans l'agence Havas et dans mes journaux, je saurai créer de l'agitation autour de ton jeune nom d'embryologiste. Je trouverai des réclames formidables, pathétiques. Notre grand embryologiste, nous recevrons de notre jeune et illustre savant dont les découvertes embryologiques, etc. Pendant qu'il étudiait sous 20 brasses d'eau, une holothurie encore inconnue, notre infatigable embryologiste faillit être emporté par un requin, une lutte terrible, etc. Va, va, mon ami, travaille sans crainte à la grandeur du pays. Aujourd'hui, un peuple n'est pas grand seulement par ses armes. Il est grand surtout par ses arts, par sa science. Les conquêtes pacifiques de la science servent plus la civilisation que les conquêtes, etc. Que dantarma, sapientiae, que les armes cèdent le pas à la sagesse. Je pleurais de joie, de fierté, d'orgueil, d'exaltation, l'exaltation de tout mon être vers quelque chose d'immense et d'immensément beau. Projeté hors de mon moi, je ne sais où, j'avais en ce moment une autre âme, une âme presque divine, une âme de création et de sacrifice, l'âme de quelque héros sublime en qui reposent les suprêmes confiances de la patrie, toutes les espérances décisives de l'humanité. Quant au ministre, à ce bandit d'Eugène, il pouvait à peine lui aussi contenir son émotion. Il y avait de l'enthousiasme vrai dans son regard, un tremblement sincère dans sa voix, et deux petites larmes coulaient de ses yeux. Il me serra la main à la briser. Durant quelques minutes, tous les deux nous fûmes le jouet inconscient et comique de notre propre mystification. Quand j'y pense! Muni de lettres de recommandation pour les autorités de Ceylan, je m'embarquai enfin par une splendide après-midi à Marseille sur le Saghalien. Dès que j'eus mis le pied sur le paquebot, j'éprouvai immédiatement l'efficacité de ce qu'est un titre officiel et comment par son prestige un homme déchu tel que j'étais alors se grandit dans l'estime des inconnus et des passants, par conséquent dans la sienne. Le capitaine, qui savait mes admirables travaux, m'entoura de prévenance presque d'honneur. La cabine la plus confortable m'avait été réservée, ainsi que la meilleure place à table. Comme la nouvelle s'était vite répandue parmi les passagers de la présence à bord d'un illustre savant, chacun s'ingénia de me manifester son respect. Je ne voyais sur les visages que le fleurissement de l'admiration. Les femmes elles-mêmes témoignaient de la curiosité, de la bienveillance, celle si discrète, celle-là caractéristique d'un sentiment plus brave. Une, surtout, attira violemment mon attention. C'était une créature merveilleuse, avec de lourds cheveux roux et des yeux verts, pailletés d'or comme ceux des fauves. Elle voyageait accompagnée de trois femmes de chambre, dont une chinoise. Je m'informai auprès du capitaine. « Oh, c'est une Anglaise, me dit-il, on l'appelle Miss Clara, la femme la plus extraordinaire qui soit. Bien qu'elle n'ait que 28 ans, elle connaît déjà toute la terre. Pour l'instant, elle habite la Chine. C'est la quatrième fois que je la vois à mon bord. » Riche ? Oh, très riche ! Son père, mort depuis longtemps, fut, m'a-t-on dit, vendeur d'opium à Canton. C'est même là qu'elle est née. Elle est, je crois, un peu toquée, mais charmante. Mariée ? Oh non ! Et je mis dans cette conjonction tout un ordre d'interrogations intimes et même égrillardes. Le capitaine sourit. Ça, non, je ne me pense pas, je ne crois pas, enfin, je ne me suis jamais aperçu de rien, ici. Telle fut la réponse du brave marin, qui me sembla au contraire en savoir beaucoup plus qu'il ne voulait en dire. Je n'insistais pas, mais je me dis à part moi, elliptique et familier. Toi, ma petite, parfaitement. Les premiers passagers avec qui je me liais furent deux Chinois de l'ambassade de Londres et un gentilhomme normand qui se rendait au Tonkin. Celui-ci voulut bien tout de suite me confier ses affaires. C'était un chasseur passionné. Je fuis la France, me déclara-t-il. Je la fuis chaque fois que je peux. Depuis que nous sommes en République, la France est un pays perdu. Il y a trop de braconniers. Ils sont les maîtres. Figurez-vous que je ne puis plus avoir de gibier chez moi. Les braconniers me le tuent, les tribunaux leur donnent raison. Oh, c'est un peu fort. Sans compter que le peu qu'ils laissent crève dans ces quelles épidémies. Alors je vais au Tonkin. Oh, quel admirable pays de chasse. C'est la quatrième fois, mon cher monsieur, que je vais au Tonkin. Ah, vraiment ? Oui, au Tonkin, il y a de tous les gibiers en abondance, mais surtout des paons. Oh, quel coup de fusil, monsieur ! Ah, mais par exemple, c'est une chasse dangereuse, il faut avoir l'œil. Ce sont sans doute des paons féroces. Bon Dieu, non, mais telle est la situation. Là où il y a du cerf, il y a du tigre, et là où il y a du tigre, il y a du paon. C'est un aphorisme. Vous allez me comprendre, suivez-moi bien. Le tigre mange le cerf et... Ah, le paon mange le tigre, insinuai-je gravement. Parfaitement, c'est-à-dire voici la chose. Quand le tigre est repu du cerf, il s'endort. Puis il se réveille, se soulage et s'en va. Et que fait le paon, lui ? Perché dans les arbres voisins, il attend prudemment ce départ. Alors il descend à terre et mange les excréments du tigre. C'est à ce moment précis qu'on doit le surprendre. Et de ses deux bras, tendus en ligne de fusil, il fit le geste de viser un paon imaginaire. Oh, quel paon, vous n'en avez pas la moindre idée. Car ce que vous prenez dans vos volières et dans nos jardins pour des paons, ce ne sont même pas des dindons. Ce n'est rien. Mon cher monsieur, j'ai tué de tout, j'ai même tué des hommes. Eh bien, jamais un coup de fusil ne me procura une émotion aussi vive que ceux que je tirais sur les paons. Les paons, monsieur, comment vous dire, c'est magnifique à tuer. Puis après un instant de silence, il conclut. Voyager, tout est là. En voyageant, on voit des choses extraordinaires et qu'il faut réfléchir. Sans doute, approuvais-je, mais il faut être comme vous, un grand observateur. C'est vrai, oui, j'ai beaucoup observé, se rengorgea le brave gentilhomme. Eh bien, de tous les pays que j'ai parcourus, le Japon, la Chine, Madagascar, Haïti et une partie de l'Australie, je n'en connais pas de plus amusant que le Tonkin. Si, vous croyez peut-être avoir vu des poules. Oui, je le crois. « Erreur, mon cher monsieur, vous n'avez pas vu de poule. Il faut aller au Tonkin pour cela. Et encore, on ne les voit pas, elles sont dans les forêts et se cachent dans les arbres. On ne les voit jamais. Seulement moi, j'avais un truc. Je remontais les fleuves en sampant avec un coq dans une cage. Je m'arrêtais au bord de la forêt et j'accrochais la cage au bout d'une branche. Le coq chantait. Alors, de toutes les profondeurs du bois, les poules venaient, elles venaient par bandes innombrables, et je les tuais. J'en ai tué jusqu'à 1200 dans la même journée. Oh, c'est admirable, proclamai-je enthousiaste. Oui, oui, oh, pas autant que les paons, toutefois. Oh, les paons, mais il n'était pas que chasseur, ce gentilhomme. Il était joueur aussi. Bien avant que nous fussions en vue de Naples, les deux Chinois, le tueur de paon et moi, avions établi une forte partie de poker. Grâce à mes connaissances spéciales de ce jeu, en arrivant à Port Saïd, j'avais délesté de leur argent ces trois incomparables personnages et triplé le capital que j'emportais vers la joie des tropiques et l'inconnu des embryologistes fabuleux. À cette époque, j'eusse été incapable de la moindre description poétique, le lyrisme m'étant venu par la suite avec l'amour. Certes, comme tout le monde, je jouissais les beautés de la nature, mais elles ne m'affolaient pas jusqu'à l'évanouissement. J'en jouissais à ma façon, qui était celle d'un républicain modéré. Et je me disais, la nature, vue d'une portière de wagon ou d'un hublot de navire, est toujours et partout semblable à elle-même. Son principal caractère est qu'elle manque d'improvisation. Elle se répète constamment, n'ayant qu'une petite quantité de formes, de combinaisons et d'aspects qui se retrouvent çà et là à peu près pareils. Dans son immense et lourde monotonie, elle ne se différencie que par des nuances à peine perceptibles et sans aucun intérêt, sinon pour les dompteurs de petites bêtes, que je ne suis pas, quoique embryologiste, et les coupeurs de cheveux en quatre. Bref, quand on a voyagé à travers 100 lieues carrées de pays, n'importe où, on a tout vu. Et cette canaille de gêne qui me criait « Tu verras cette nature, ces arbres, ces fleurs !» Moi, les arbres me portent sur les nerfs et je me tolère les fleurs que chez les modistes et sur les chapeaux. En fait, de nature tropicale, Monte Carlo est amplement suffi à mes besoins d'esthétique paysagiste, à mes rêves de voyage lointain. Je ne comprends pas les palmiers, les cocotiers, les bananiers, les palétuviers, les pamplemousses, les pandanus, que je ne les comprends que si je puis cueillir à leur ombre les numéros pleins et de jolies petites femmes qui grignotent entre leurs lèvres autre chose que le bétel. Cocotiers, arbre à cocotte, je n'aime les arbres que dans cette classification bien parisienne. Oh, la brute aveugle et sourde que j'étais alors! Et comment ai-je pu, avec un si écœurant cynisme, blasphémer contre la beauté infinie de la forme, qui va de l'homme à la bête, de la bête à la plante, de la plante à la montagne, de la montagne au nuage et du nuage au caillou, qui contient en reflet toutes les splendeurs de la vie? Bien que nous fussions au mois d'octobre, la traversée de la mer Rouge fut quelque chose de très pénible. La chaleur était si écrasante, l'air si lourd à nos poumons d'Européens que bien des fois je pensais mourir asphyxié. Dans la journée, nous ne nous quittions guère le salon où le grand panka indien fonctionnait sans cesse et nous donnait l'illusion vite perdue d'une brise plus fraîche. Et nous passions la nuit sur le pont, où il ne nous était d'ailleurs pas plus possible de dormir que dans nos cabines. Le gentilhomme normand soufflait comme un bœuf malade et ne songeait plus à raconter ses histoires de chasse tonkinoise. Parmi les passagers, ceux qui s'étaient montrés les plus vantards, les plus intrépides, étaient tout effondrés, inertes de membres, et sifflant de la gorge, ainsi que des bêtes fourbues. Rien n'était plus ridicule que le spectacle de ces gens écroulés dans leurs pyjamas multicolores. Seuls les deux Chinois semblaient insensibles à cette température de flamme. Ils n'avaient rien changé à leurs habitudes, pas plus qu'à leurs costumes, et partageaient leur temps entre des promenades silencieuses sur le pont et des parties de cartes ou de dés dans leur cabine. Nous ne nous intéressions à rien. Rien, du reste, ne nous distrayait du supplice de nous sentir cuire avec une lenteur et une régularité de pot-au-feu. Le paquebot naviguait au milieu du golfe, au-dessus de nous, autour de nous, rien que le bleu du ciel et le bleu de la mer, un bleu sombre, un bleu de métal chauffé, qui çà et là garde à sa surface les incandescents de la forge. À peine si nous distinguions les côtes Somalie, la masse rouge, lointaine, en quelque sorte vaporisée, de ces montagnes de sable ardent où pas un arbre, pas une herbe ne pousse, et qui en sert comme d'un brasier, sans cesse en feu, cette mer sinistre, semblable à un immense réservoir d'eau bouillante. Je dois dire que, durant cette traversée, je fis preuve d'un grand courage et que je réussis à ne rien montrer de mon réel état de souffrance. J'y parvins par la fatuité et par l'amour. Le hasard, et était-ce bien le hasard ou le capitaine, m'avait donné Miss Clara pour voisine de table. Un incident de service fit que nous liâmes connaissance presque immédiatement. D'ailleurs, ma haute situation dans la science et la curiosité dont j'étais l'objet autorisaient certaines dérogations aux ordinaires conventions de la politesse. Comme me l'avait appris le capitaine, Miss Clara rentrait en Chine après avoir partagé tout son été entre l'Angleterre pour ses intérêts, l'Allemagne pour sa santé et la France pour son plaisir. Elle m'avoua que l'Europe la dégoûtait de plus en plus. Elle ne pouvait plus supporter ses mœurs étriquées, ses modes ridicules, ses paysages frileux. Elle ne se sentait heureuse et libre qu'en Chine. D'allure très décidée, d'existence très exceptionnelle, causant parfois à tort et à travers, parfois avec une vive sensation des choses, d'une gaieté fébrile poussée à l'étrange, sentimentale et philosophe, ignorante et instruite, impure et candide, mystérieuse enfin avec des trous, des fuites, des caprices incompréhensibles, des volontés terribles. Elle m'intrigua fort, bien qu'il fasse attendre à tout de l'excentricité d'une Anglaise. Et je ne doutais point dès l'abord, moi qui, en fait de femme, n'avais jamais rencontré que des cocottes parisiennes, et ce qui est pire, des femmes politiques et littéraires, je ne doutais point que j'eusse facilement raison de celle-ci, et je me promis d'agrémenter avec elle mon voyage d'une façon imprévue et charmante. Rousse de cheveux, rayonnante de peau, un rire était toujours prêt à sonner sur ses lèvres charnues et rouges. Elle était vraiment la joie du bord, et comme l'âme de ce navire en marche vers la folle aventure et la liberté hédénique des pays vierges des tropiques de feu. Ève des paradis merveilleux, fleur elle-même, fleur d'ivresse et fruit savoureux de l'éternel désir, je la voyais rebondir parmi les fleurs et les fruits d'or des vergers primordiaux, non plus dans ce moderne costume de piqué blanc qui moulait sa taille flexible et renflait de vie puissante son buste, pareil à un bulbe, mais dans la splendeur surnaturalisée de sa nudité biblique. Je ne tardais pas à reconnaître l'erreur de mon diagnostic galant et que Miss Clara, au rebours de ce que j'avais trop vaniteusement auguré, était d'une imprenable honnêteté. Loin d'être déçu par cette constatation, elle ne m'en parut que plus jolie, et je conçus un véritable orgueil de ce que, pure et vertueuse, elle m'eût accueilli, moi, ignoble et débauché, avec une si simple et si gracieuse confiance. Je ne voulais pas écouter les voix intérieures qui me criaient « Mais cette femme ment, cette femme se moque de toi. Mais regarde donc, imbécile, ces yeux qui ont tout vu, cette bouche qui a tout baisé, ces mains qui ont tout caressé, cette chair qui tant de fois a frémi à toutes les voluptés et à toutes les étreintes. pure. Et ces gestes qui savent, et cette mollesse, et cette souplesse, et ces flexions du corps qui gardent toutes les formes de l'enlacement, et ce buste gonflé comme une capsule de fleurs saoule de pollen. Eh bien non, en vérité, je ne les écoutais pas. Et ce me fut une sensation délicieusement chaste, faite d'attendrissement, de reconnaissance, de fierté, une sensation de reconquête morale, d'entrer chaque jour plus avant dans la familiarité d'une belle et vertueuse personne dont je me disais à l'avance qu'elle ne serait jamais rien pour moi, rien qu'une âme. Cette idée me relevait, me réhabilitait à mes propres yeux. Grâce à ce pur contact quotidien, je gagnais, oui, je gagnais de l'estime envers moi-même. Toute la boue de mon passé se transformait en lumineuse azur, et j'entrevoyais l'avenir à travers la tranquille, la limpide émeraude des bonheurs réguliers. Oh, comme Eugène Mortin, Madame G, leur pareil, étaient loin de moi. Comme toutes ces figures de grimaçants fantômes se fondaient à toutes les minutes davantage sous le céleste regard de cette créature lustrale par qui je me révélais à moi-même un homme nouveau avec des générosités, des tendresses, des élans que je ne m'étais jamais connus. Oh l'ironie des attendrissements d'amour! Oh la comédie des enthousiasmes qui sont dans l'âme humaine! Bien des fois, près de Clara, je crus à la réalité, à la grandeur de ma mission, et que j'avais en moi le génie de révolutionner toutes les embryologies de toutes les planètes de l'univers. Nous en arrivâmes vite aux confidences, en une série de mensonges habilement mesurés, qui étaient d'une part de la vanité, d'autre part un bien naturel désir de ne pas me déprécier dans l'esprit de mon ami, je me montrais tout à mon avantage en mon rôle de savant, narrant mes découvertes biologiques, mes succès d'académie, tout l'espoir que les plus illustres hommes de science fondaient sur ma méthode et sur mon voyage. Puis, quittant ces hauteurs un peu ardues, je mêlais des anecdotes de vie mondaine à des appréciations de littérature et d'art, mi-saines, mi-perverses, assez pour intéresser l'esprit d'une femme sans le troubler. Et ces conversations, frivoles et légères, auxquelles je m'efforçais de donner un tour spirituel, prêtaient à ma grave personnalité de savant un caractère particulier et peut-être unique. J'achevais de conquérir Miss Clara durant cette traversée de la mer Rouge. Domptant mon malaise, je sus trouver des soins ingénieux et de délicates attentions qui endormirent son mal. Lorsque le Sakhalien relâcha à Aden pour y faire du charbon, nous étions, elle et moi, de parfaits amis, amis de cette miraculeuse amitié que pas un regard ne trouble, pas un geste ambigu, pas une intention coupable n'effleure pour en ternir la belle transparence. Et pourtant, les voix continuaient de crier en moi « Mais regarde donc ces narines qui aspire avec une volupté terrible toute la vie. Regarde ses dents, qui tant de fois ont mordu dans le fruit sanglant du péché. » Héroïquement, je leur imposais silence. Ce fut une joie immense quand nous entrâmes dans les eaux de l'océan Indien. Après les mortelles, torturantes journées passées sur la mer Rouge, il semblait que ce fût la résurrection. Une vie nouvelle, une vie de gaieté, d'activité reprenait à bord. Quoique la température fût encore très chaude, l'air était délicieux à respirer comme l'odeur d'une fourrure qu'une femme vient de quitter. Une brise légère imprégnée, on eût dit, de tous les parfums de la flore tropicale, rafraîchissait le corps et l'esprit. Et c'était autour de nous un éblouissement. Le ciel d'une translucidité de grotte férique était d'un vert d'or, flammé de rose. La mer calme, d'un rythme puissant sous le souffle de la mousson, s'étendait extraordinairement bleue, ornée çà et là de grandes volutes smaragdines. Nous sentions réellement, physiquement, comme une caresse d'amour, l'approche des continents magiques, des pays de lumière où la vie un jour de mystère avait poussé ses premiers vagissements. Et tous avaient sur le visage, même le gentilhomme normand, un peu de ce ciel, de cette mer, de cette lumière. Miss Clara, cela va sans dire, attirait, excitait beaucoup les hommes. Elle avait toujours autour d'elle une cour d'adorateurs passionnés. Je n'étais point jaloux, certain qu'elle les jugeait ridicules et qu'elle me préférait à tous les autres, même aux deux Chinois avec qui elle s'entretenait souvent, mais qu'elle ne regardait pas comme elle me regardait avec cet étrange regard où il m'avait semblé plusieurs fois, et malgré tant de réserves, surprendre des complicités morales et je ne sais quelle secrète correspondance. Parmi les plus fervents se trouvait un explorateur français qui se rendait dans la presqu'île Malaise pour y étudier des mines de cuivre, et un officier anglais que nous avions pris à Aden et qui regagnait son poste à Bombay. C'était, chacun dans son genre, deux épaisses mais fort amusantes brutes, et dont Clara aimait à se moquer. L'explorateur ne tarissait pas sur ses récents voyages à travers l'Afrique centrale. Quant à l'officier anglais, capitaine dans un régiment d'artillerie, il cherchait à nous éblouir en nous décrivant toutes ses inventions de balistique. Un soir, après le dîner, sur le pont, nous étions tous réunis autour de Clara, délicieusement étendue sur un rocking chair. Les uns fumaient des cigarettes, ceux-là rêvaient. Tous nous avions au cœur le même désir de Clara, et tous, avec la même pensée de possession ardente, nous suivions le va-et-vient de deux petits pieds chaussée de deux petites mules roses qui, dans le balancement du fauteuil, sortaient du calice parfumé des jupons comme des pistils de fleurs. Nous ne disions rien. Et la nuit était d'une douceur féerique. Le bateau glissait voluptueusement sur la mer comme sur de la soie. Clara s'adressa à l'explorateur. « Alors, » fit-elle d'une voix malicieuse, « ce n'est pas une plaisanterie. Vous en avez mangé de la viande humaine ?»« Certainement, oui, » répondait-il fièrement et d'un ton qui établissait une indiscutable supériorité sur nous. « Il le fallait bien, on mange ce qu'on a. » « Quel goût ça a-t-il » demanda-t-elle un peu dégoûtée. Oh, il réfléchit un instant, puis esquissant un geste vague. « Oh mon Dieu, » dit-il, « comment vous expliquer ? Figurez-vous, adorable miss, figurez-vous du cochon un peu mariné dans l'huile de noix. » Négligent et résigné, il ajouta, « Ce n'est pas très bon, on ne mange pas ça du reste par gourmandise. J'aime mieux le gigot de mouton ou le beefsteak. » « Évidemment, » consentit Clara. Et comme si elle eût voulu par politesse diminuer l'horreur de cette anthropophagie, elle spécialisa. « Parce que, sans doute, vous ne mangiez que de la viande de nègre. » Du nègre! S'écria-t-il en sursautant. Boah! Ah, heureusement, cher Biche, je n'en fus pas réduit à ces dures nécessités. Nous n'avons jamais manqué de blanc, Dieu merci. Notre escorte était nombreuse, en grande partie formée d'Européens, des Marseillais, des Allemands, des Italiens, un peu de tout. Quand on avait trop faim, on abattait un homme de l'escorte, de préférence un Allemand. L'Allemand, dit Vilmis, est plus gras que les autres races, et il fournit davantage. Et puis nous autres Français, c'est un Allemand de moins. Oh, l'Italien, lui, est sec et dur, c'est plein de nerfs. Et le Marseillais, intervint-je. Pouf, déclara le voyageur en hochant la tête. Le Marseillais est très surfait, il sent l'ail, et aussi je ne sais pas quoi, le suin. Vous dire que c'est régalant, non, c'est mangeable, voilà tout. Se tournant vers Clara avec des gestes de protestation, il insista. Oh, mais du nègre, jamais, je crois que je l'aurais revomi. J'ai connu des gens qui en avaient mangé. Ils sont tombés malades. Le nègre n'est pas comestible. Il y en a même, je vous assure, qui sont vénéneux. Et, scrupuleux, il rectifia. Après tout, faut-il le bien connaître comme les champignons? Peut-être les nègres de l'Inde se laissent-ils manger? Ah non, affirma l'officier anglais d'un ton bref et catégorique, qui clôtura au milieu des rires cette discussion culinaire à laquelle commençait à me soulever le cœur. L'explorateur, un peu décontenancé, reprit « Il importe, malgré tous ces petits ennuis. Je suis très heureux d'être reparti. En Europe, je suis malade, je ne vis pas, je ne sais où aller. » Je me trouve aveli et prisonnier dans l'Europe comme une bête dans une cage. Impossible de faire jouer ses coudes, d'étendre les bras, d'ouvrir la bouche, sans se heurter à des préjugés stupides, à des lois imbéciles, à des mœurs iniques. L'année dernière, charmante miss, je me promenais dans un champ de blé. Avec ma canne, j'abattais les épis autour de moi. Cela m'amusait, j'ai bien le droit de faire ce qui me l'est, n'est-ce pas? Un paysan accourut qui se mit à crier, à m'insulter, à m'ordonner de sortir de son champ. Oh, on n'a pas idée de ça! Qu'auriez-vous fait à ma place? Je lui assénai 3 vigoureux coups de canne sur la tête. Il tomba, le crâne fendu. Eh bien, devinez ce qui m'est arrivé. Vous l'avez peut-être mangé, insinua en riant Clara. Non, on m'a traîné devant je ne sais quel juge, qui me condamnèrent à 2 mois de prison et 10 000 francs de dommages et intérêts, pour un seul paysan. Et on appelle ça de la civilisation. Est-ce croyable? Eh bien, merci, s'il avait fallu que je fusse en Afrique condamné de la sorte, chaque fois que j'ai tué des nègres et même des blancs.
Car vous tuiez aussi les nègres, dit Clara.
Certainement, oui, honorable miss.
Mais pourquoi, puisque vous ne les mangiez pas?
Mais pour les civiliser, c'est-à-dire pour leur prendre leur stock d'ivoire et de gomme. Et puis que voulez-vous? Si les gouvernements et les maisons de commerce qui nous confient des missions civilisatrices apprenez que nous n'avons tué personne, que dirait-il?
C'est juste, approuva le gentilhomme normand. D'ailleurs, les nègres sont des bêtes féroces, des braconniers, des tigres.
Les nègres, quelle erreur, cher monsieur! Ils sont doux et gais, ils sont comme des enfants. Avez-vous vu jouer des lapins le soir? Dans une prairie à la bordure d'un bois? Sans doute. Ben, ils ont des mouvements jolis, des gaietés folles, se lustrent de poils avec leurs pattes, bondissent et se roulent dans les mantes.
Eh bien, les nègres sont comme ces jeunes lapins. C'est très gentil.
Pourtant, il est certain qu'ils sont anthropophages, persista le gentilhomme.
Les nègres, protesta l'explorateur, pas du tout. Dans les pays noirs, il n'est d'anthropophages que les blancs. Les nègres mangent des bananes et broutent des herbes fleuries. Je connais un savant qui prétend même que les nègres ont des estomacs ruminants. Comment voulez-vous qu'ils mangent de la viande, surtout de la viande humaine ?
Alors pourquoi les tuer, objectai-je, car je me sentais devenir bon et plein de pitié.
Mais je vous l'ai dit, pour les civiliser. Oh, c'était très amusant. Quand après des marches, nous arrivions dans un village de nègres. Ceux-ci étaient fort effrayés. Ils poussaient aussitôt des cris de détresse, ne cherchaient pas à fuir tant ils avaient peur et pleuraient la face contre terre. On leur distribuait de l'eau de vie, car nous avons toujours dans nos bagages de fortes provisions d'alcool, et lorsqu'ils étaient ivres, nous les assommions.
Ah, sale coup de fusil, résuma non sans dégoût le gentilhomme normand qui, sans doute à cette minute, revoyait dans les forêts du Tonkin passer et repasser le vol merveilleux des paons. La nuit se poursuivait dans l'éblouissement. Le ciel était en feu autour de nous. L'océan balançait de grandes nappes de lumière phosphorescente. Et j'étais triste, triste de Clara, triste de ces hommes grossiers et de moi-même et de nos paroles qui offensaient le silence et la beauté. Tout à coup, « Connaissez-vous Stanley ?» demanda Clara à l'explorateur.
« Certainement, oui, je le connais, » répondit celui-ci.
« Et que pensez-vous de lui ?»«
Oh, lui !» fit-il en hochant la tête.
Et comme si d'affreux souvenirs venaient d'envahir son esprit, il acheva d'une voix grave.
« Il va tout de même un peu loin. »
Je sentais que le capitaine avait depuis quelques minutes le désir de parler. Il profita du moment de répit qui suivit cet aveu. « Moi, dit-il, j'ai fait beaucoup mieux que tout cela, et vos petits massacres ne sont rien auprès de ceux que l'on me devra. J'ai inventé une balle. Oh, elle est extraordinaire !» Et je l'appelle la balle Doum Doum, du nom du petit village hindou où j'eus l'honneur de l'inventer. Elle tue beaucoup plus que les autres, demanda Clara.
Oh, chère miss, ne m'en parlez pas, fit-il en riant. C'est incalculable.
Et modeste, il ajouta.
Pourtant, ce n'est rien, c'est tout petit. Figurez-vous une petite chose, comment appelez-vous ? Une petite noisette, c'est cela, oui. Figurez-vous une toute petite noisette, c'est charmant.
Et quel joli nom, capitaine, admira Clara.
Très joli, en effet, approuva le capitaine, visiblement flatté. Très poétique.
On dirait, n'est-ce pas, on dirait d'un nom de fée dans une comédie de Shakespeare. La fée Doum Doum, oh, cela m'enchante. Une fée rieuse, légère et toute blonde, qui sautille, danse et bondit parmi les bruyères et les rayons de soleil. Et allez donc, Doum Doum.
Et allez donc, répéta l'officier, parfaitement.
Elle va d'ailleurs très bien, admirable miss.
Et ce qu'elle a d'unique, je crois, c'est qu'avec elle, il n'y a pour ainsi dire plus de blessés. Il n'y a plus que des morts. Voilà par où elle est vraiment exquise. Il se tourna vers moi et avec un accent de regret dans lequel se confondaient nos deux patriotismes, il soupira. Ah, si vous l'aviez eu en France au moment de cette affreuse commune, quel triomphe! Et passant brusquement à une autre songerie, je me demande parfois si ce n'est point un conte d'Edgar Poe, un rêve de notre Thomas de Quincey, mais non, puisque cette adorable petite doum-doum, je l'ai expérimentée moi-même. Telle est l'histoire. J'ai fait placer 12 hindous vivants, naturellement. L'empereur d'Allemagne, lui, pratique ses expériences balistiques sur des cadavres. Avouez que c'est absurde et tout à fait incomplet. Moi, j'opère sur des personnes, non seulement vivantes, mais d'une constitution robuste et d'une parfaite santé. Au moins, on voit ce que l'on fait et où l'on va. Je ne suis pas un rêveur, moi, je suis un savant. Mille pardons, capitaine, continuez donc. Donc, j'ai fait placer 12 hindous, l'un derrière l'autre, sur une ligne géométriquement droite, et j'ai tiré. Eh bien, interrompit Clara. Eh bien, délicieux ami, cette petite doum-doum a fait une merveille. Des 12 hindous, il n'en est pas resté un seul debout. La balle avait traversé leurs 12 corps, qui n'étaient plus qu'après le coup que 12 tas de chair en bouillie et d'os littéralement broyés. Magique vraiment! Et jamais je l'avais cru à un aussi admirable succès. Admirable, en effet, qui tient du prodige. N'est-ce pas? Mais songeur, après quelques secondes, d'un silence émouvant. « Je cherche, murmura-t-il confidentiellement, je cherche quelque chose de mieux, quelque chose de plus définitif, je cherche une balle, une petite balle qui ne laisserait rien de ce qu'elle attend, rien, rien, comprenez-vous ? Comment cela, comment rien ? Oh, si peu de choses, expliqua l'officier. À peine un tas de cendres ou même une légère fumée roussâtre qui se dissiperait tout de suite. Cela se peut. Ah, une incinération automatique alors. Parfaitement. Avez-vous songé aux avantages nombreux d'une telle invention? De la sorte, je supprime les chirurgiens d'armée, les infirmiers, les ambulances, les hôpitaux militaires, les pensions aux blessés, etc., etc. Ce serait une économie incalculable, soulagement pour les budgets des États. Et je ne parle pas de l'hygiène. Quelle conquête pour l'hygiène! Et vous pourriez appeler cette balle la balle Nib-Nib, m'écriai-je. Très joli, applaudit l'artilleur, qui, bien qu'il n'eût rien compris à cette interruption argotique, se mit à rire bruyamment de ce brave et franc rire qu'ont les soldats de tous les grades et de tous les pays. Quand il se fut calmé, « Je prévois, dit-il, que la France, lorsqu'elle aura reconnu ce splendide engin, va encore nous injurier dans tous ces journaux. Et ce seront les plus farouches de vos compatriotes, ceux-là même qui crient très haut qu'on ne dépense jamais assez de milliards pour la guerre, qui ne parlent que de tuer et de bombarder, ce seront ceux-là qui, une fois de plus, voueront l'Angleterre à l'exécration des peuples civilisés. Mais sapristi, nous sommes logiques avec notre état d'universel barbarie. Comment on admet que les obus soient explosibles et on voudrait que les balles ne fussent pas? Et pourquoi? Nous vivons sous la loi de la guerre. Or, en quoi consiste la guerre? Elle consiste à massacrer le plus d'hommes que l'on peut dans le moins de temps possible. pour la rendre de plus en plus meurtrière et expéditive, il s'agit de trouver des engins de destruction de plus en plus formidables. C'est une question d'humanité, et c'est aussi le progrès moderne. Mais, capitaine, objectai-je, et le droit des gens? Qu'en faites-vous? L'officier ricana, élevant les bras vers le ciel. Le droit des gens, répliqua-t-il. Mais c'est le droit que nous avons de massacrer les gens, en bloc ou en détail, avec des obus ou des balles, peu importe, pourvu que les gens soient dûment massacrés. Alors l'un des Chinois intervint.
Nous ne sommes pourtant pas des sauvages, dit-il.
Pas des sauvages? Et que sommes-nous d'autres, nous prie? Nous sommes des sauvages, pire que ceux de l'Australie, puisque, en ayant conscience de notre sauvagerie, nous y persistons. Et puisque c'est par la guerre, c'est-à-dire par le vol, le pillage et le massacre, que nous entendons gouverner, commercer, régler nos différends, venger notre honneur, eh bien, nous n'avons qu'à supporter les inconvénients de cet état de brutalité où nous voulons nous maintenir quand même. Nous sommes des brutes, soit, mais alors agissons en brut. Alors Clara dit d'une voix douce et profonde, et puis, ce serait un sacrilège de lutter contre la mort. C'est si beau, la mort. Elle se leva, toute blanche et mystérieuse, sous la lumière électrique du bord. Le fin et long châle de soie qui l'enveloppait de reflets pâles et changeants. À demain, dit-elle encore. Tous nous étions autour d'elle, empressés. L'officier lui avait pris sa main qu'il baisait, et je détestais sa figure mâle, ses reins souples, ses jarrets nerveux, toute son allure de force. Il s'excusa. Pardonnez-moi, dit-il, de m'être laissé emporter dans un tel sujet, et d'avoir oublié que devant une femme telle que vous, on ne devrait jamais parler que d'amour. Clara répondit, « Mais, capitaine, qui parle de la mort parle aussi de l'amour. » Elle prit mon bras et je la reconduisis jusqu'à sa cabine, où ses femmes l'attendaient pour la toilette de nuit. Toute la soirée, je fus hanté de massacres et de destructions. Mon sommeil fut fort agité cette nuit-là. Au-dessus des bruyères rouges, parmi les rayons d'un soleil de sang, je vis, blonde, rieuse et sautillante, passer la petite fée Doum-Doum, la petite fée Doum-Doum qui avait les yeux, la bouche, toute la chair inconnue et dévoilée de Clara. Une fois, mon ami et moi, appuyés l'un près de l'autre au bastingage, nous regardions la mer et nous regardions le ciel. La journée allait bientôt finir. Dans le ciel, de grands oiseaux, des alcyons bleus, suivaient le navire en se balançant avec d'exquis mouvements de danseuse. Sur la mer, des troupes de poissons volants se levaient à notre approche, et tout brillant sous le soleil, allait se poser plus loin, pour repartir ensuite, rasant l'eau d'un bleu de vivante turquoise ce jour-là. Puis des bandes de méduses, des méduses rouges, des méduses vertes, des méduses pourprées et roses et mauves, flottaient, ainsi que des jonchées de fleurs, sur la surface molle et si magnifique de couleurs que Clara, à chaque instant, poussait des cris d'admiration en me les montrant. Et tout d'un coup, elle me demanda, « Dites-moi, comment s'appellent ces merveilleuses bêtes ?» J'aurais pu inventer des noms bizarres, trouver des terminologies scientifiques. Je ne le tentais même pas. poussé par un immédiat, un spontané, un violent besoin de franchise. « Je ne sais pas, » répondis-je fermement. Je sentais que je me perdais, que tout ce rêve vague et charmant qui avait bercé mes espoirs, endormi mes inquiétudes, je le perdais aussi sans rémission, que j'allais, d'une chute plus profonde, retomber aux fanges inévitables de mon existence de paria. Oh, je sentais tout cela. Mais il y avait en moi quelque chose de plus fort que moi, et qui m'ordonnait de me laver de mes impostures, de mes mensonges, de ce véritable abus de confiance, par quoi, lâchement, criminellement, j'avais escroqué l'amitié d'un être qui avait eu foi à mes paroles. Non, en vérité, je ne sais pas, répétai-je en donnant à cette simple dénégation un caractère d'exaltation dramatique qu'elle ne comportait point. Mais comme vous me dites cela, est-ce que vous êtes fou? Mais qu'avez-vous donc? Fit Clara étonnée du son de ma voix et de l'étrange incohérence de mes gestes. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et pour faire entrer plus de force de conviction dans ce triple « je ne sais pas », je frappai 3 fois violemment sur le bastingage. Mais comment, vous ne savez pas, un savant, un naturaliste? Je ne suis pas un savant, Miss Clara, je ne suis pas un naturaliste, je ne suis rien, criai-je. Un misérable, oui, je suis un misérable. Je vous ai menti, odieusement menti. Il faut que vous connaissiez l'homme que je suis. Écoutez-moi. Haletant, désordonné, je racontais ma vie. Eugène Mortin, Madame G., l'imposture de ma mission, toutes mes malpropretés, toutes mes boues. Je prenais une joie atroce à m'accuser, à me rendre plus vil, plus déclassé, plus noir encore que je ne l'étais. Et quand j'eus terminé ce douloureux récit, je dis à mon ami dans un torrent de larmes, « Maintenant, c'est fini. Vous allez me détester, me mépriser comme les autres. Vous vous détournerez de moi avec dégoût. Et vous aurez raison, et je ne me plaindrai pas. C'est affreux, mais je ne pouvais plus vivre ainsi. Je ne voulais plus de ce mensonge entre vous et moi. Je pleurais abondamment et je bégayais des mots sans suite comme un enfant. C'est affreux. C'est affreux, et moi qui... Car enfin, c'est vrai, je vous le jure, moi qui... Vous comprenez, un engrenage, c'est ça, un engrenage, ça a été un engrenage. Je le savais pas, moi, et puis votre âme, votre chère âme, et vos regards de pureté, et votre cher... Oui, c'est enfin, vous sentez bien votre cher accueil... C'était mon salut, ma rédemption. Oh, c'est affreux, je perds tout cela, c'est affreux. Tandis que je parlais et que je pleurais, Miss Clara me regardait fixement. Oh, ce regard! Jamais, non jamais, je n'oublierai le regard que cette femme adorable posa sur moi. Un regard extraordinaire, où il y avait à la fois de l'étonnement, de la joie, de la pitié, de l'amour, oui, de l'amour, et de la malice aussi, et de l'ironie, et de tout, un regard qui entrait en moi, me pénétrait, me fouillait, me bouleversait l'âme et la chair. Eh bien, dit-elle simplement, ça ne m'étonne pas trop.
Je crois vraiment que tous les savants sont comme vous. Sans cesser de me regarder, riant du rire clair et joli qu'elle avait, un rire pareil à un chant d'oiseau. « J'en ai connu un, hein ?» reprit-elle. « C'était un naturaliste de votre genre. Il avait été envoyé par le gouvernement anglais pour étudier dans les plantations de Ceylan le parasite du caféier. Eh bien, durant 3 mois, il ne quitta pas Colombo. Il passait son temps à jouer au poker et à se griser de champagne. Et son regard sur moi, un étrange, profond et voluptueux regard, toujours sur moi, elle ajouta, après quelques secondes de silence, sur un ton de miséricorde où il me sembla que j'entendais chanter toutes les allégresses du pardon, « Oh, la petite canaille !» Je ne savais plus que dire, ni s'il fallait rire ou encore pleurer, ou bien m'agenouiller à ses pieds. Timidement, je balbutiais. « Alors, vous ne m'en voulez pas, vous ne me méprisez pas. Vous me pardonnez ?»« Bête, » vit-elle. « Oh, la petite bête !»« Clara, Clara, est-ce possible ?» m'écriai-je, presque défaillant de bonheur. Comme la cloche du dîner avait depuis longtemps sonné et qu'il n'y avait plus personne sur cette partie du pont, je m'approchai de Clara plus près, si près que je sentis sa hanche frémir contre moi et battre sa gorge. Et saisissant ses mains qu'elle laissa dans les miennes, tandis que mon cœur se soulevait en tempête dans ma poitrine, je m'écriai « Clara, Clara, m'aimez-vous? Oh, je vous en supplie, m'aimez-vous? » Elle répliqua faiblement « Je vous dirai cela ce soir, chez moi. » Je vis passer en ses yeux une flamme verte, une flamme terrible qui me fit peur. Elle dégagea ses mains de l'étreinte des miennes, et le front subitement barré d'un pli dur, la nuque lourde, elle se tut et regarda la mer. À quoi pensait-elle? Je n'en savais rien. Et en regardant la mer, moi aussi, je songeais. Tant que j'ai été pour elle un homme régulier, elle ne m'a pas aimé, elle ne m'a pas désiré. Mais de la minute où elle a compris qui j'étais, où elle a respiré la véritable et impure odeur de mon âme, l'amour est entré en elle. Car elle-même, allons, allons, il n'y a donc de vrai que le mal. Le soir était venu, puis sans crépuscule, la nuit. Une douceur inexprimable circulait dans l'air. Le navire naviguait dans un bouillonnement d'écume phosphoreuse. De grandes clartés effleuraient la mer. Et l'on eût dit que des fées se levaient de la mer, étendaient sur la mer de longs manteaux de feu, et secouaient et jetaient à pleine main dans la mer des perles d'or. Un matin, en arrivant sur le pont, je distinguai, grâce à la transparence de l'atmosphère et aussi nettement que si j'en eusse foulé des pieds le sol, l'île enchantée de Ceylan, l'île verte et rouge que couronne les féeriques blancheurs roses du pic d'Adam. Déjà la veille, nous avions été avertis de son approche par les nouveaux parfums de la mer et par une mystérieuse invasion de papillons qui, après avoir accompagné durant quelques heures le navire, s'en était allé subitement. Et sans penser à plus, Clara et moi, nous avions trouvé exquis que l'île qui nous envoya la bienvenue par l'entremise de ses éclatants et poétiques messagers.
J'en étais maintenant à ce point de lyrisme sentimental que la seule vue d'un papillon faisait vibrer en moi toutes les harpes de la tendresse et de l'extase. Mais ce matin-là, la vision réelle de Ceylan me donna de l'angoisse, plus que de l'angoisse, de la terreur. Ce que j'apercevais là-bas, par-delà les flots, en ce moment couleur de myosotis, c'était non point un territoire, non point un port, ni la curiosité ardente de tout ce que suscite dans l'homme le voile enfin levé sur de l'inconnu. C'était le rappel brutal à la vie mauvaise, le retour à mes instincts délaissés, l'âpre et désolant réveil de tout ce qui, pendant cette traversée, avait dormi en moi et que je croyais mort. C'était quelque chose de plus douloureux à quoi je n'avais jamais pensé et dont il m'était impossible non pas même de comprendre, mais seulement de concevoir l'impossible réalité, la fin du rêve prodigieux qu'avait été pour moi l'amour de Clara. Pour la première fois, une femme me tenait. J'étais son esclave, et je ne désirais qu'elle, je ne voulais qu'elle. Rien n'existait plus en dehors et au-delà d'elle. Au lieu d'éteindre l'incendie de cet amour, la possession chaque jour en ravivait les flammes. Chaque fois, je descendais plus avant dans le gouffre embrasé de son désir, et chaque jour, je sentais davantage que toute ma vie s'épuiserait à en chercher, à en toucher le fond. Comment admettre que, après avoir été conquis, âme, corps et cerveau, par cet irrévocable, indissoluble et suppliciant amour, je dusse le quitter aussitôt? Folie! Cet amour était entré en moi comme ma propre chair, il s'était substitué à mon sang, à mes moelles, il me possédait tout entier, il était moi. Me séparer de lui, c'était me séparer de moi-même, c'était me tuer. Pis encore, c'était ce cauchemar extravagant que ma tête fut à Ceylan, mes pieds en Chine, séparé par des abîmes de mer et que je persistasse à vivre en ces deux tronçons qui ne se rejoindraient plus. Que le lendemain même, je n'eusse plus à moi ses yeux pâmés, ses lèvres dévoratrices, le miracle chaque nuit plus imprévu de ce corps, aux formes divines, aux étreintes sauvages, et après les longs spasmes puissants, comme le crime profond comme la mort, ses balbutiements ingénus, ses petites plaintes, ses petits rires, ses petites larmes, ses petits chants-là d'enfants ou d'oiseaux, était-ce possible? Et je perdrais tout cela qui m'était plus nécessaire pour respirer que mes poumons, pour penser que mon cerveau, pour alimenter le sang chaud, mes veines que mon cœur. Allons donc. J'appartenais à Clara comme le charbon appartient au feu qui le dévore et le consume. À elle et à moi, cela paraissait tellement inconcevable, une séparation, et si follement chimérique, si totalement contraire aux lois de la nature et de la vie, que nous n'en avions jamais parlé. La veille encore, nos deux âmes confondues ne songeaient, sans même se le dire, qu'à l'éternité du voyage, comme si le navire qui nous emportait dût nous emporter ainsi, toujours, toujours, et jamais, jamais n'arriver quelque part. Car arriver quelque part, c'est mourir. Et pourtant, voilà que j'allais descendre là-bas, m'enfoncer là-bas dans ce vert et dans ce rouge, disparaître là-bas dans cet inconnu, plus affreusement seul que jamais. Et voilà que Clara ne serait bientôt plus qu'un fantôme, puis un petit point gris à peine visible dans l'espace, puis rien, 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 rien. Tout plutôt que cela. Ah, que la mer nous engloutisse tous les deux. Elle était douce, la mer, calme et radieuse. Elle exhalait une odeur de rivage heureux, de vergers fleuris, de lits d'amour qui me fit pleurer.
Le pont s'animait, rien que des physionomies joyeuses, des regards distendus par l'attente et par la curiosité.
Oh, nous entrons dans la baie, nous sommes dans la baie.
Je vois la côte.
Oh, je vois les arbres.
Je vois le phare.
Nous sommes arrivés.
Chacune de ces exclamations me tombait lourdement sur le cœur. Je ne voulus pas avoir devant moi cette vision de l'île encore lointaine, mais si implacablement nette et dont chaque tour d'hélice me rapprochait, et me détournant d'elle, je contemplais l'infini du ciel où je souhaitais me perdre, ainsi que ces oiseaux là-bas, là-haut, qui passaient un instant dans l'air et s'y fondaient si doucement. Clara ne tarda pas à me rejoindre. Était-ce d'avoir trop aimé? Était-ce d'avoir trop pleuré? Ses paupières étaient toutes meurtries, et ses yeux, dans leur cerne bleu, exprimaient une grande tristesse. Et il y avait encore dans ses yeux plus que de la tristesse. Il y avait en vérité une pitié ardente, à la fois combative et miséricordieuse. Sous ses lourds cheveux d'or brun, son front se barrait d'un pli d'ombre, ce pli qu'elle avait dans la volupté comme dans la douleur. Un parfum étrangement grisant venait de ses cheveux. Elle me dit simplement ce seul mot, « Déjà ?» « Hélas !» soupirai-je. Elle acheva d'ajuster son chapeau, un petit chapeau marin qu'elle fixa au moyen d'une longue épingle d'or. Ses deux bras levés faisaient cambrer son buste, dont je vis se dessiner les lignes sculpturales sous la blouse blanche qui l'enveloppait. Elle reprit d'une voix qui tremblait un peu. « Y aviez-vous pensé ? Oh non !» Clara se mordit les lèvres où le sang afflua. « Et alors ? » fit-elle. Je ne répondis pas. Je n'avais pas la force de répondre. La tête vide, le cœur déchiré, j'aurais voulu glisser au néant. Elle était émue, très pâle, sauf la bouche qui me semblait plus rouge et lourde de baisers. Longtemps, ses yeux m'interrogèrent avec une pesante fixité. Le bateau relâche 2 jours à Colombo et puis il repartira. Le savez-vous? Oh oui, oui. Et puis, c'est fini. Puis-je quelque chose pour vous? Oh, rien, merci, puisque c'est fini. Et comprimant mes sanglots au fond de ma gorge, je bégayais. Vous avez été tout, tout pour moi. Vous avez été pour moi plus que tout. Oh, ne me parlez plus, je vous en conjure. C'est trop douloureux, trop inutilement douloureux. Ne me parlez plus, puisque maintenant tout est fini. Rien n'est jamais fini, prononça Clara. Rien, pas même la mort. Une cloche sonna. Oh, cette cloche, comme elle sonna dans mon cœur, comme elle sonna le glas de mon cœur. Les passagers s'empressaient sur le pont, criaient, s'exclamaient, s'interpellaient, braquaient des lorgnettes, des jumelles, des appareils photographiques vers l'île qui se rapprochait. Le gentilhomme normand, désignant les masses de verdure, expliquait les jungles impénétrables aux chasseurs. Et parmi le tumulte, la bousculade, indifférents et réfléchis, les mains croisées, sous leurs manches larges, les deux Chinois continuaient leur lente, leur grave promenade quotidienne, comme deux abbés qui récitent leurs prières.
Nous sommes arrivés. Hurrah, hurrah, nous sommes arrivés. Je vois la ville.
Est-ce la ville?
Non, non, c'est un récif de corail. Oh, je distingue le wharf. Mais non, mais non. Qu'est-ce qui vient là-bas, sur la mer? Oh, déjà, au loin, voile toute rose, une petite flottille de barques s'avance vers le paquebot. Les deux cheminées dégorgeant des flots de fumée noire couvrir d'une ombre de deuil la mer, et la sirène gémit longtemps, longtemps. Personne ne faisait attention à nous. Clara me demanda sur un ton d'impérieuse tendresse, « Voyons, qu'allez-vous devenir ?»« Je ne sais pas, oh, que m'importe. » J'étais perdu, je vous ai rencontré. Vous m'avez retenu quelques jours au bord du gouffre. J'y retombe maintenant. C'était fatal. Pourquoi fatal? Mais vous êtes un enfant. Et vous n'avez pas confiance en moi. Croyez-vous donc que c'est par hasard que vous m'avez rencontré? Elle ajouta après un silence, « Mais c'est si simple. J'ai de puissants amis en Chine, ils pourraient sans doute beaucoup pour vous. Voulez-vous que... » Je ne lui cessais pas le temps d'achever. « Ah non, pas ça, suppliai-je, en me défendant mollement d'ailleurs. Oh, surtout pas ça. Oh, je vous comprends. Ne me dites plus rien. » « Mais vous êtes un enfant, répéta Clara, et vous parlez comme en Europe, cher petit cœur, et vous avez des stupides scrupules comme en Europe. En Chine, la vie est libre, heureuse, totale, sans convention, sans préjugés, sans loi, pour nous du moins. Pas d'autre limite à la liberté que soi-même, à l'amour que la variété triomphante de son désir. » L'Europe et sa civilisation hypocrite, barbare, c'est le mensonge. Qui faites-vous autre chose que de mentir à vous-même et aux autres, de mentir à tout ce que, dans le fond de votre âme, vous reconnaissez être la vérité? Vous êtes obligé de feindre un respect extérieur pour des personnes, des institutions que vous trouvez absurdes. Vous demeurez lâchement attaché à des conventions morales ou sociales que vous méprisez, que vous condamnez, que vous savez manquer de tout fondement. C'est cette contradiction permanente entre vos idées, vos désirs et toutes les formes mortes, tous les vains simulacres de votre civilisation qui vous rend triste, troublé, déséquilibré. Dans ce conflit intolérable, vous perdez toute joie de vivre, toute sensation de personnalité, parce que, à chaque minute, on comprime, on empêche, on arrête le libre jeu de vos forces. Voilà la plaie empoisonnée, mortelle du monde civilisé. Mais chez nous, rien de pareil, vous verrez. Je possède à Canton, parmi les jardins merveilleux, un palais où tout est disposé pour la vie libre et pour l'amour. Que craignez-vous? Que laissez-vous? Qui donc s'inquiète de vous? Quand vous ne m'aimerez plus ou quand vous serez trop malheureux, vous vous en irez. Clara, Clara, implorai-je. Elle frappa d'un coup sec le plancher du navire. Vous ne me connaissez pas encore, dit-elle. Vous ne savez pas qui je suis et déjà vous voulez me quitter. Est-ce que je vous fais peur? Est-ce que vous êtes lâche? Mais sans toi, je ne puis plus vivre. Sans toi, je ne puis que mourir. Eh bien, ne tremble plus, ne pleure plus et viens avec moi. Un éclair traversa le vert de ses prunelles. Elle dit d'une voix plus basse, presque rauque, « Je t'apprendrai des choses terribles, des choses divines. Tu sauras enfin ce que c'est que l'amour. Je te promets que tu descendras avec moi tout au fond du mystère de l'amour et de la mort. Et souriant d'un sourire rouge qui me fit courir un frisson dans les mois, elle me dit encore, « Pauvre bébé, tu te croyais un grand débauché, un grand révolté. Tes pauvres remords, te souviens-tu? Et voilà que ton âme est plus timide que celle d'un petit enfant. » C'était vrai. J'avais beau me vanter d'être une intransigeante canaille, me croire supérieure à tous les préjugés moraux, j'écoutais encore parfois la voix du devoir et de l'honneur qui, à de certains moments de dépression nerveuse, montait les profondeurs troubles de ma conscience. L'honneur de qui? Le devoir de quoi? Quel abîme de folie que l'esprit de l'homme! En quoi mon honneur, oh mon honneur, était-il compromis? En quoi déserterais-je mon devoir parce que, au lieu de me morfondre à Ceylan, je poursuivrais mon voyage jusqu'en Chine? Est-ce que véritablement j'entrais assez dans la peau d'un savant pour imaginer que j'allais étudier la gelée pélagique, découvrir la cellule en plongeant dans les golfes de la côte singalaise? Cette idée tout à fait burlesque que j'eusse pris au sérieux, ma mission d'embryologiste, me ramena vite aux réalités de ma situation. Comment la chance, le miracle, voulait que je rencontrasse une femme divinement belle, riche, exceptionnelle, et que j'aimais et qui m'aimait, et qui m'offrait une vie extraordinaire, des jouissances à foison, des sensations uniques, des aventures libertines, une protection fastueuse, le salut enfin, et plus que le salut, la joie. Et je laisserai échapper tout cela? Une fois de plus, le démon de la perversité, ce stupide démon à qui, pour lui avoir stupidement obéi, je devais tous mes malheurs, interviendrait encore pour me conseiller une résistance hypocrite contre un événement inespéré qui tenait des contes de fées, qui ne se retrouverait jamais plus, et dont je souhaitais ardemment au fond de moi qu'il se réalisât. Oh non, non, c'était trop bête à la fin. Vous avez raison, dis-je à Clara, en mettant sur le seul compte de la défaite amoureuse une soumission qui contentait aussi tous mes instincts de paresse et de débauche. Vous avez raison. Je ne serais pas digne de vos yeux, de votre bouche, de votre âme, de tout ce paradis et de tout cet enfer qui est vous, si j'hésitais plus longtemps. Et puis je ne pourrais pas te perdre, tout concevoir hormis cela. Tu as raison, je suis à toi. Emmène-moi où tu voudras. Souffrir, mourir, il n'importe, puisque tu es, toi que je ne connais pas encore, mon destin. Oh, bébé, 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 fit Clara, sur un ton singulier dont je ne suis pas démêlé l'expression véritable, et si c'était de la joie, de l'ironie ou de la pitié. Puis, presque maternelle, elle me recommanda. Maintenant, ne vous occupez de rien que d'être heureux. Restez là, regardez l'île merveilleuse. Je vais régler avec le commissaire votre nouvelle situation à bord. Clara, ne craignez rien, je sais ce qu'il faut dire. Et comme j'allais émettre une objection, chut! N'êtes-vous pas mon bébé, cher petit cœur? Vous devez obéir, et puis vous ne savez pas. Et elle disparut, se mêlant à la foule des passagers entassés sur le pont et dont beaucoup portaient déjà leurs valises et leurs menus bagages. Il avait été décidé que les 2 jours que nous relâchions à Colombo, nous les passerions, Clara et moi, à visiter la ville
et les environs où mon ami avait séjourné et qu'elle connaissait à merveille. Il y faisait une chaleur torride, si torride que les endroits les plus frais, par comparaison de cet atroce pays où des savants placent le paradis terrestre, tels les jardins au bord des grèves, me parurent d'étouffantes étuves. La plupart de nos compagnons de voyage n'osèrent pas affronter cette température de feu qui leur enlevait la moindre velléité de sortir et jusqu'au plus vague désir de remuer. Je les vois encore ridicules et gémissant dans le grand hall de l'hôtel, le crâne couvert de serviettes mouillées et fumantes, élégant appareil renouvelé tous les quarts d'heure, qui transformait la plus noble partie de leur individu en un tuyau de cheminée couronné de son panache de vapeur. Étendu sur des fauteuils à bascule, sous le punka, la cervelle liquéfiée, les poumons congestionnés, ils buvaient des boissons glacées que leur préparaient les boys, lesquels, par la couleur de la peau et la structure du corps, rappelaient les naïfs bonshommes en pain d'épices de nos foires parisiennes, tandis que d'autres boys, du même ton et du même gabarit, éloignaient d'eux à grands coups d'éventail les moustiques. Quant à moi, je retrouvais, un peu trop vite peut-être, toute ma gaieté et même toute ma verve blagueuse. Mes scrupules s'étaient évanouis. Je ne me sentais plus en mal de poésie. Débarrassé de mes soucis, sûr de l'avenir, je redevins l'homme que j'étais en quittant Marseille, le Parisien stupide et frondeur à qui on ne l'a fait pas. Le boulevardier, qui ne s'en laisse pas compter, et qui sait dire son fait à la nature, même la nature des tropiques. Colombo me parut une ville assommante, ridicule, sans pittoresque et sans mystère. Moitié protestante, moitié bouddhiste, abrutie comme un bonze et renfrognée comme un pasteur, avec quelle joie je me félicitais intérieurement d'avoir par miracle échappé à l'ennui profond que ses rues droites, son ciel immobile, ses dures végétations dégageaient. Et je fis des mots d'esprit sur les cocotiers, que je ne manquais pas de comparer à d'affreux et chauves plumeaux, ainsi que sur toutes les grandes plantes que j'accusais d'avoir été taillées par de sinistres industriels dans des tôles peintes et des zingues vernies. Et nos promenades à Slave Island, qui est le bois de l'endroit, et à Peta, qui en est le quartier mouffetard, nous ne rencontrâmes que d'horribles anglaises d'opérette, fagotées de costumes clairs, mi-hindous, mi-européens, du plus carnavalesque effet. Et des cingalaises, plus horribles encore que les anglaises, vieilles à 12 ans, ridées comme des pruneaux, tendues comme des séculaires cèpes de vigne, effondrées comme des paillotes en ruine, avec des gencives en pleine saignante, des lèvres brûlées par la noix de Orsé, d'Arec, et des dents aux couleurs de vieilles pipes. Je cherchais en vain les femmes voluptueuses, les négresses aux savantes pratiques d'amour, les petites dentelières si pimpantes, dont m'avait parlé ce menteur de Eugène Mortin avec des yeux si significativement égrillards. Et je plaignis de tout mon cœur les pauvres savants que l'on envoie ici avec la problématique mission de conquérir le secret de la vie. Mais je compris que Clara ne goûtait pas ces plaisanteries faciles et grossières, et je crus prudent de les atténuer, ne voulant ni la blesser dans son culte fervent de la nature, ni me diminuer dans son esprit. À plusieurs reprises, j'avais remarqué qu'elle m'écoutait avec un étonnement pénible. « Et pourquoi donc êtes-vous si gai ?» m'avait-elle dit. « Je n'aime pas qu'on soit gai ainsi, cher petit cœur, cela me fait du mal. Quand on est gai, c'est que l'on n'aime pas.
L'amour est une chose grave, triste et profonde. Ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs d'éclater de rire à propos de tout ou à propos de rien. C'est ainsi qu'elle m'encouragea fort dans une mystification dont j'eus l'idée et que voici. Parmi les lettres de recommandation que j'avais emportées de Paris, s'en trouvait une pour un certain Sir Oscar Tyrwhitt, lequel, entre autres titres scientifiques, était à Colombo le président de l'Association of the Tropical Embryology and of the British Entomology. À l'hôtel où je me renseignais, j'appris en effet que Sir Oscar Tyrwhitt était un homme considérable, auteur de travaux renommés, un très grand savant en un mot. Je résolus d'aller le voir. Une telle visite ne pouvait plus m'être dangereuse, et puis je n'étais pas fâché de connaître, de toucher un véritable embryologiste. Il demeurait loin, dans un faubourg appelé Colpetti, et qui est pour ainsi dire le Passy de Colombo. Là, au milieu de jardins touffus, ornés de l'inévitable cocotier, dans des villas spacieuses et bizarres, habitent les riches commerçants et les notables fonctionnaires de la ville. Clara désira m'accompagner. Elle m'attendit en voiture, non loin de la maison du savant, sur une sorte de petite place ombragée par d'immenses tecs. Sir Oscar Tyrwhitt me reçut poliment, sans plus. C'était un homme très long, très mince, très sec, très rouge de visage, et dont la barbe blanche descendait jusqu'au nombril, coupée carrément ainsi qu'une queue de poney. Il portait un large pantalon de soie jaune, et son torse velu s'enveloppait dans une sorte de châle de laine claire. Il lut avec gravité la lettre que je lui remis, et après m'avoir examiné du coin de l'œil avec un air méfiant, me méfiait-il de moi ou de lui, il me demanda « Vous êtes embryologiste ?» Je m'inclinai en signe d'assentiment. « All right, » gloussa-t-il. Et faisant le geste de traîner un filet dans la mer, il reprit « Vous êtes embryologiste ?» Yes, comme ça, dans le mer, fish, little fish, parfaitement, little fish, appuyai-je en répétant le geste imitatif du savant. Dans le mer, yes, très intéressant, très joli, très curious, yes. Tout en jargonnant de la sorte, et continuant tous les deux de traîner dans le mer nos chimériques filets, le considérable savant m'amena devant une console de bambou sur laquelle étaient rangés trois bustes de plâtre couronnés de lotus artificiels. Les désignant du doigt, successivement, il me les présenta sur un ton de gravité si comique que je faillis éclater de rire. « Mr. Darwin, très grand naturaliste, très très grand, yes !» Je saluai profondément. « Monsieur Haeckel, très grand naturaliste, pas si que lui, non, mais très grand, Monsieur Haeckel ici, comme ça, lui, dans la mer, little fish !» Je saluai encore, et d'une voix plus forte, il cria en posant toute sa main rouge, comme un crabe sur le troisième buste. « Master Conklin, un très grand naturaliste du Museum, comment appeler, du Museum Gravin, yes, Gravin, très joli, très curious. » « Très intéressante, confirmai-je. « Yes. » Après quoi, il me congédia. Je fis à Clara le récit détaillé et mimé de cette étrange entrevue. Elle rit comme une folle. Oh, mais que vous êtes drôle, cher petit voyou. Ce fut le seul épisode scientifique de ma mission. Et je compris alors ce que c'était que l'embryologie. Le lendemain matin, après une sauvage nuit d'amour, nous reprenions la route en mer vers la Chine.